Donc on est en train de voir un petit peu le livre d'Exode. Le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Donc comme ça, vous n'avez pas trop de mal à le trouver pour le lire. Vous pouvez vous aller au tout début de l'Ancien Testament, et le deuxième livre, c'est l'Exode. Et il y a quelques semaines, donc il y a deux semaines, on a commencé à suivre l'histoire que nous propose le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, en fait, c'est en quelque sorte un miroir de l'Évangile pour nous. On pourrait dire peut-être une préfiguration du plan de salut de Dieu. Parce que le livre de l'Exode nous parle d'un Dieu qui agit. Le livre de l'Exode, il nous parle d'un Dieu qui entend. Le livre de l'Exode, il nous parle d'un Dieu qui révèle sa présence. De Dieu qui vient habiter parmi son peuple. D'un Dieu qui veut demeurer avec nous. Alors après avoir vu il y a deux semaines, je ne sais pas si certains se souviennent, la terrible situation du peuple d'Israël qui se multiplie en Égypte, la semaine dernière on a vu comment Dieu a choisi Moïse pour le conduire hors d'Égypte, épouser Séphora, dans le pays de Madian. Et on était resté un petit peu sur ce dernier verset du chapitre 2, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Et dans la section qu'on va traiter ce matin, ce qui nous intéresse là ce matin, c'est une longue section, 4 chapitres, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 6 du livre de l'Exode. On va voir que Dieu révèle sa présence, que Dieu révèle son nom, et qu'il commence son intervention. Et son intervention, il va la commencer à des kilomètres de là, pas en Égypte. Il va la commencer avec Moïse. Et je vous propose de lire les 10 premiers versets du chapitre 3. Donc les 10 premiers versets du chapitre 3, les versets 1 à 10... que je lis dans la version Semeur. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors: je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela du milieu du buisson. « Moïse ! Moïse ! » !»« Je suis là, » répondit Moïse. Dieu lui dit: « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta: « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit: « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Juste ici, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, on voit Dieu qui se révèle au milieu d'un buisson. Un buisson tout en feu, mais qui ne se consume pas. Plus encore, un buisson qui part. Un buisson qui s'adresse à Moïse. Verset 4 dit: « Moïse !» Et puis il appelle une deuxième fois: « Moïse !» Pour lui dire quoi? Pour lui dire: « J'ai vu. » Pour lui dire: « J'ai entendu. » Et je suis descendu. Autrement dit, je vais venir, je vais intervenir pour mon peuple. Alors la question qu'on se pose là, c'est comment il va intervenir? Comment il va intervenir? Verset 10, il va envoyer Moïse pour faire sortir d'Égypte son peuple. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il annonce à Moïse la délivrance du peuple d'Israël. Et il lui dit, c'est toi, Moïse, que je vais utiliser. Et c'est comme ça que l'appel de Moïse commence. Dieu s'est révélé à Moïse. Maintenant, il va lui faire connaître son nom. À lui, aux Israélites, mais aussi à Pharaon. Et on va voir comment ils vont expérimenter le nom de Dieu et vivre ses implications. On va voir comment un épisode d'il y a 3500 ans nous éclaire sur la manière dont nous pouvons expérimenter le nom de Dieu, connaître Dieu dans notre foi aujourd'hui. Et là, je vais vous proposer 4 points. Premier point, un nom qui a du sens. Deuxième point, ne nous trompons pas de nom. Troisième point, les implications du nom de Dieu. Et quatrième point, expérimenter le nom de Dieu. On pourrait commencer par une question. Pourquoi nommons-nous les choses? Pourquoi est-ce qu'on nomme les choses ou les personnes? Pourquoi on leur attribue un nom? Et en réfléchissant à ça, j'ai trouvé 2 réponses. La première, il me semble que quand on nomme quelque chose, c'est pour attester de sa présence. Je me suis rappelé quand Thomas, mon petit garçon, est né, la sage-femme, pour lui mettre son bracelet, la première chose qu'elle nous a dit, c'est « Alors, comment vous allez l'appeler ?» On a dit « Thomas », ils lui ont mis un bracelet. « Thomas », ils ont attesté de sa présence sur notre terre. Il n'était plus juste un bébé, il était Thomas. Donc peut-être attester la présence de quelqu'un, quelque chose. Et une deuxième réponse, peut-être pour définir. Quand je nomme quelque chose, si je dis « ceci est une chaise », je dis juste « ceci est une chaise ». Mais pour vous, c'est clair que je suis en train de dire qu'il y a 4 pieds, qu'il y a un dossier. Donc je définis quelque chose en nommant. Et en tant qu'être humain, on nomme les choses ou les personnes et on se fait nommer par d'autres pour attester d'une présence, pour définir. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, lui, il révèle lui-même son nom. Alors, dans nos sociétés, on pourrait avoir tendance à vouloir nommer notre propre Dieu. Ah oui, moi, mon Dieu, à moi, il est comme ça. Toi, ton Dieu, à toi, il est comme ça. On essaye de le définir. Mais Dieu se nomme lui-même. Dieu s'auto-définit. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions connaître son nom, expérimenter sa présence, connaître et expérimenter son nom. Donc premier point, un nom qui a du sens. Et pour en revenir à notre texte maintenant, après que Dieu ait dit à Moïse ce qu'il allait faire à travers lui, qu'il serait avec lui, Moïse va lui demander « Quel est le nom du Dieu qui m'accompagne ? Quel est le nom du Dieu qui m'envoie pour que je puisse le dire aux Israélites ?» Et c'est là que Dieu révèle son nom. Un passage bien connu, verset 14, chapitre 3. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est ». Encore, on pourrait le traduire par « je suis ». Parce qu'il se définit par rien d'autre que lui-même. « Je suis celui qui est », dévoile son nom ici. Et puis plus tard dans le texte, il va utiliser le nom de « Je suis » ou de « Yahweh »,« Yahvé » en fonction de la prononciation, qui ressemble à une forme du verbe « être » en hébreu, mais qu'on va plutôt rendre dans nos traductions par « l'Éternel ». Verset 15, on lit « Voilà son nom pour l'éternité, voilà comment Dieu veut être invoqué de génération en génération. » Dieu, je suis celui qui est, l'Éternel, ne révèle pas son nom ici dans un sens peut-être mystificateur. Ou, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, dans le sens d'une formule magique. Mais Dieu révèle son nom ici pour être connu par Moïse. Il veut révéler quelque chose de qui il est à Moïse. Et quand il dit qu'il est l'Éternel, qu'il est celui qui est, en fait, Dieu affirme qu'il est avec Moïse, qu'il est le Dieu qui est là, qu'il est le Dieu qui existe. Quand Dieu dit « Je suis celui qui est », il affirme qu'il est le Dieu par excellence, qui est à l'origine de tout. « Je suis celui qui est » affirme qu'il est le nom à l'origine de tout, mais aussi de tout ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on voit jusqu'au début du chapitre 4. Dieu va dire « Je ferai, j'étendrai ma main ». En fait, celui qui est, est aussi celui qui fera tout et qui va tout faire. Voilà le sens qu'il y a derrière le nom de Dieu. Voilà le sens qu'il y a derrière le nom le plus important de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer 1500 ans après ? Environ 1500 ans après cet événement, une personne va déclarer « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » On voit ça dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Jésus s'est identifié au nom le plus important de toute l'histoire d'Israël, en affirmant qu'il est celui qui est. En fait, le Dieu d'Exode 3, qu'on voit là descendre au milieu de son peuple, en Jésus, il est descendu pour marcher au milieu de nous. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Jean 1, verset 18. En fait, l'Éternel qui se révèle ici en Exode 3 et qui se fait connaître par son nom va se révéler et se faire connaître d'une manière plus excellente en Jésus-Christ. Alors, comme je le disais pour Yahweh, je ne crois pas que le nom de Jésus-Christ aurait un sens mystificateur, comme je pourrais dire, ou que ce soit une formule magique pour obtenir ou recevoir quelque chose. Mais je pense qu'il faudrait plutôt retenir trois choses qu'on peut voir ici. Premièrement, en Jésus, on peut affirmer que celui qui est là. Jésus a marché parmi nous. Deuxièmement, on peut dire qu'en Jésus, on peut affirmer et connaître que Dieu est à l'origine de tout. Parce que lui est depuis le commencement. Et puis troisièmement, en Jésus, on sait que Dieu a tout fait, que Dieu a tout accompli. C'est le plan de salut de l'humanité qui commence en Genèse 3 et qui se termine à la croix. Alors on vient de voir que Dieu veut se révéler. On sait que qu'il veut se faire connaître, pardon. Il veut se faire connaître par son nom, parmi son peuple. Alors pour Moïse, pour Israël, et peut-être pour nous aussi, il ne faudrait pas qu'on se trompe de nom. Et on arrive à notre deuxième partie. Ne nous trompons pas de nom. On continue la suite du chapitre 4, et cette fois à partir du verset 10. Dieu s'est révélé à Moïse. Il lui a révélé son nom et ce qu'il allait faire pour le peuple. Et pourtant, Moïse, là, on perçoit qu'il manque de confiance, qu'il est un peu rempli de crainte. Regardez ce qu'il dit. « De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et nous, avec le recul, on peut se dire, mais peut-être que Moïse, il n'a pas encore bien compris qui est Dieu, qui est l'Éternel. Rappelons-nous que le grand Je suis, l'Éternel, qui s'est présenté ici à Moïse, est celui qui, au chapitre 3, verset 17, a décidé de faire sortir son peuple d'Égypte. Au verset 20, celui qui interviendra et frappera l'Égypte. Au verset 21, celui qui fera gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Et plus encore, là face à la crainte de Moïse, la peur de Moïse de ne pas savoir parler, l'Éternel il lui dit quoi ? Qui a donné une bouche à l'être humain ? C'est moi qui suis avec ta bouche, Moïse. Et pourtant même après ça, Moïse, lui, continue ses objections. « Ah Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras, pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. » Et la colère de Dieu s'enflamme contre Moïse. Et je crois qu'ici, c'est un passage très intéressant pour voir qu'en fait, il y a peut-être une juste mesure à trouver entre la conscience de qui on est et puis le fait de ne voir qu'à travers soi-même. Moïse, il se trompe de nom ici. Au lieu de regarder au nom de Dieu qui vient de lui être révélé, lui, il regarde, on pourrait dire, à son propre nom. Mais moi, Moïse, je ne peux pas faire ça. C'est beaucoup trop dur. Et pourtant, Dieu, lui, il n'a de cesse de lui dire, c'est l'Éternel qui va le faire en fait. Et je trouve que là, on voit quelque chose, je voudrais cimer un petit peu de toute la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce parce que malgré toutes les objections de Moïse, malgré le fait que Moïse ne regarde qu'à son propre nom, malgré le fait que rien n'oblige Dieu, il continue à équiper Moïse. Il envoie à Aaron, son frère, pour le rassurer. Il lui donne un bâton. C'est à travers ce bâton que Dieu lui a donné qu'il va pouvoir accomplir des prodiges. Et là, on voit comment Dieu entoure et rassure Moïse, malgré toute sa défaillance. Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce, oui, mais Moïse, il est quand même invité à ne pas se tromper de nom. La libération du peuple d'Israël, elle ne repose pas et elle n'a jamais reposé sur le nom de Moïse, mais sur Yahweh, l'Éternel. Et nous aussi, qui sommes lecteurs, quand on ouvre le livre de l'Exode, on est appelé à ne pas nous tromper de nom. Et en nous souvenant que même si Moïse va devenir un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, il y avait même un prof à l'Institut biblique qui appelait Moïse le géant spirituel. Et on voit que Aaron, lui, va devenir le tout premier grand prêtre du peuple d'Israël. Mais il faut se souvenir que ce que Dieu dit ici, c'est que la bouche de Moïse, c'est l'Éternel qui a. La bouche d'Aaron, c'est l'Éternel. Le bâton de Moïse, c'est l'Éternel. On vient de parler avec Tom de son projet missionnaire. Et je me dis que lorsqu'on part en mission, ou lorsqu'on a été appelé à servir Jésus-Christ, de quelque manière que ce soit dans un ministère à temps plein ou pas, dans quelque service que ce soit dans l'Église, dans diverses responsabilités, en fait, notre appel ne repose pas sur nos propres capacités. Et il ne faudrait pas qu'on se trompe de nom. Parce que cet appel, il repose sur la volonté de Dieu, sur sa fidélité, sa puissance, sa souveraineté, et sur un seul nom, à travers lequel il s'est fait connaître, Jésus-Christ. On avance sur le chemin de la foi pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et je peux vous dire que quand on se lève pour aller à la prédication, je pense qu'on a cette pensée de ne pas se tromper de nom à chaque fois. Alors ici, peut-être on peut faire une petite parenthèse, petite excursus sur l'orgueil. Parce qu'on voit dans les réponses de Moïse quelque chose que je trouve intéressant, c'est la frontière entre l'humilité et l'orgueil, qui est tellement fine que du coup j'ai appelé l'orgueil bien habillé. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un burger et un burger à la française. Nous, avec Aurélie, on a beaucoup aimé la mode du burger à la française. Il y avait plein de petits restaurants qui s'ouvraient et les slogans, ce n'était pas un simple burger, un burger à la française. Parce qu'un burger à la française, selon le slogan, c'est pas juste un burger, c'est un sandwich haut de gamme. C'est une salade frisée, c'est des oignons caramélisés, des fois c'est même un foie gras poêlé. Et puis c'est pas des frites. Tu peux pas dire que c'est juste des frites, c'est des frites de patates douces. Un petit peu différent. Et d'ailleurs, quand on va manger un burger à la française, on dit pas « je vais dans un fast-food, je vais au restaurant ». S'asseoir, c'est pas pareil. Mais en fait, la réalité, c'est qu'un burger à la française, c'est un burger bien habillé. Plus séduisant. Plus appétissant. Mais au fond, c'est un burger. Et je crois que l'humilité, un petit peu déguisée, elle plonge ses racines dans l'orgueil. Mais elle est mieux habillée. Elle est un peu plus séduisante. Et moi, je dois confesser que c'est la forme de l'orgueil qui me convient le mieux, où je m'exprime le mieux. Parce qu'elle m'aide à camoufler, en fait, le fait de regarder qu'à moi, le fait de chercher des solutions que par mes propres capacités, derrière le fait que non, c'est pas pour moi, oh, je ne sais pas faire ça. Un orgueil bien habillé qui nous pousse à oublier le nom de Jésus-Christ, au profit de notre propre nom. Et en lisant ce texte, ça a été pour moi une opportunité de chercher où est-ce que l'orgueil était bien habillé dans ma vie. Alors, je vous laisserai réfléchir à ça, si vous voulez. Chercher l'orgueil bien habillé dans vos propres vies, vous pourrez. On continue notre récit, on arrive à la fin du chapitre 4. Après un long entretien avec l'Éternel, celui qui est, Moïse repart auprès de son beau-père. Il va vers Jéthro pour le prévenir que l'Éternel l'envoie en Égypte, et puis il va partir vers l'Égypte, chapitre 4, verset 20, avec le bâton que Dieu lui a donné. Dieu a révélé sa présence à Moïse, il lui a fait connaître son nom, et on va voir maintenant que la présence du nom de Dieu parmi son peuple, va impliquer des choses pour Moïse et pour les Israélites. Les implications du nom de Dieu. Je pense qu'on pourrait dire ici qu'une première des implications, par le fait que Dieu se fasse connaître par son nom et qu'Israël est appelé fils aîné de Dieu, c'est la toute première fois. Mais je pense que ce thème du fils aîné de Dieu, il va être traité dans d'autres prédications. Donc là, on ne va pas le traiter juste maintenant, on va plutôt s'intéresser aux implications que suscite la présence de Dieu chez Moïse et chez les Israélites. Parce qu'à partir d'Exode 3, l'Éternel, en révélant son nom, affirme sa présence et se fait connaître. Et ça va impliquer des choses dans la vie de Moïse, des Israélites. Premier passage où on arrive, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais un passage un peu énigmatique encore pour moi maintenant, où Dieu cherche à faire mourir Moïse. Séphora circoncit le fils de Moïse Guershom avec un silex. Elle jette son prépuce, ses pieds, et elle dit « Tu seras pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. » Donc pour moi, un passage un petit peu énigmatique, je dois reconnaître. Mais je crois qu'on peut quand même dire quelque chose ce matin. C'est que ce passage nous montre un lien. Et si vous êtes chrétien, vous êtes certainement familier avec ce lien-là. Entre le fait que Dieu se révèle, le fait que Dieu se fasse connaître par son nom, se rende présent dans nos vies, et le fait d'aligner nos vies sur sa volonté, de chercher à aligner nos vies sur sa volonté. Alors pourquoi Dieu cherche à faire mourir Moïse ? Eh bien, un bon nombre de biblistes pensent que c'est certainement parce qu'il n'a pas fait circoncire son fils Guershom, alors que l'alliance que Dieu avait passée avec Abraham l'exigeait comme signe distinctif pour le peuple de Dieu. On voit ça dans le livre de la Genèse. Et l'attitude de Séphora, la femme de Moïse, va plutôt dans ce sens-là. On pourrait dire que c'est très intéressant de voir que Moïse a l'habitude de se faire un petit peu sauver la mise par beaucoup de femmes dans toute son histoire. Ça peut être un point intéressant. Mais on va rester sur le fait que connaître le nom de l'Éternel, celui qui est, marcher dans son plan divin de libération, implique pour Moïse de se conformer à la volonté de Dieu, implique pour Moïse d'obéir à l'Éternel. Et donc, l'obéissance comme une implication de la révélation du nom de Dieu. Mais pas que l'obéissance, la foi. Et ça, on va l'observer à partir du verset 29. Moïse et Aaron partent, et Aaron répète au peuple d'Israël tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Quelle est la réaction du peuple? Ils se prosternent et ils adorèrent. Quel témoignage de foi! Quand l'Éternel se révèle, se fait connaître par son nom, ça implique de notre part obéissance et foi. Parce que l'obéissance et la foi sont au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. Dieu s'est fait connaître de la manière la plus excellente en marchant parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, qu'ils puissent professer leur foi. Mais il y a aussi la suite, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Obéissance et foi. Dieu s'est révélé et a fait connaître son nom parmi son peuple. Et nous, on est invités à ne pas regarder à notre propre nom, mais à celui qui est de toute éternité. Et ça, ça a des implications, l'obéissance et la foi. Et tout ça, c'est ce qui est nécessaire pour expérimenter le nom de Dieu. Et c'est la quatrième partie, la dernière, expérimenter le nom de Dieu. On traverse très rapidement maintenant le chapitre 5 et 6, où Moïse et Aaron viennent annoncer à Pharaon que l'Éternel va libérer son peuple, pour nous attarder sur quelques versets du chapitre 6. Mais on peut quand même dire que sur le chapitre 5 et 6, ça présente l'Exode comme un récit où le peuple de Dieu va expérimenter son Dieu. Tout début du chapitre 5, on retrouve un verset qui est bien connu, les personnes qui ne sont pas familières des versets bibliques. L'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse partir mon peuple ». Une phrase qui a résonné dans le cœur de nombreux peuples dans toute l'histoire de l'humanité. « Laisse partir mon peuple ». Et la réponse de Pharaon, elle est terrible. Qu'est-ce qu'il répond Pharaon? Il va répondre « Mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ?» Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit qu'on allait voir dans l'Exode, toute la suite de l'Exode, comment le peuple d'Israël va expérimenter le nom de Dieu. Mais Pharaon aussi va expérimenter le nom de Dieu. Il va expérimenter la puissance de celui qui est, tout le long de l'Exode. Si vous lisez l'Exode en entier, dans les lectures suivies, je vous invite à regarder à chaque fois que Dieu dit « Je suis l'Éternel » quand il s'adresse à Pharaon. Pharaon va expérimenter le nom de Dieu. Et un jour, je racontais à quelqu'un, à un ami, je racontais un petit peu mon témoignage et qui était Jésus pour moi. Et mon ami m'a répondu « Oh, c'est super, quelle vocation, t'es heureux, c'est génial. » Et il m'a dit « Mais moi, personnellement, Jésus, pour moi, c'est rien. Je connais pas et ça m'intéresse pas. » Et pourtant, cette personne, un jour, mon ami, il va expérimenter le nom de Jésus. Parce qu'un jour, tout genou fléchira. Parce que tout le monde, quel qu'il soit, va expérimenter le nom de Jésus-Christ. Peut-être d'une manière différente, mais tout le monde expérimentera le nom de Jésus-Christ. Alors on revient au texte. Pharaon, lui, il va rendre encore pire les conditions d'esclavage de son peuple. À tel point que le peuple va se retourner contre Moïse et Aaron. Et Moïse, lui, va se retourner contre Dieu, parce que c'est pire en pire, en fait. Parce qu'il ne voit aucune amélioration. Alors il doute, il désespère. Et je suis sûr que vous avez déjà tous dit ou entendu, moi je crois que je l'ai un peu plus dit qu'entendu, mais le « bah tu vois, je te l'avais dit ». En fait, c'est ce qu'il fait Moïse. « Bah tu vois Dieu, je te l'avais dit, pourquoi tu m'as envoyé? Tu vois bien que ça ne marche pas. » Et la réponse de Dieu, elle est monumentale. Et on va conclure là-dessus. La réponse de Dieu, elle est monumentale, et on va conclure là-dessus. C'est les versets du chapitre 6, versets 2 à 8. Vous voyez tout, un petit peu comme une inclusion, un encadrement dans ces versets où Dieu s'adresse à Moïse, il lui rappelle « Je suis l'Éternel », à la fin « Moi l'Éternel ». Il rappelle qu'il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'il s'est engagé. C'est lui, le Dieu de l'alliance, qui s'est engagé. Et au centre, on trouve ce qu'il répond à Moïse. Tu vas expérimenter le nom de Dieu. Je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent. Je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Et en fait, ce que dit Dieu ici, c'est une invitation à vivre la libération. Si Dieu veut se faire connaître, c'est pour nous faire expérimenter la libération. Moïse, je t'ai révélé mon nom. Je suis celui qui est, le Dieu par excellence, celui qui est à l'origine de tout et qui fera toutes choses. Moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. J'ai fait une alliance, je me suis engagé. Je serai fidèle à mon alliance. Et toi, Moïse, avec tout le peuple, vous allez expérimenter mon nom. C'est-à-dire que vous allez vivre la libération de l'esclavage. Et ça, c'est les 10 prochains chapitres de l'Exode. La main puissante de l'Éternel qui libère son peuple. C'est ça, expérimenter le nom de Dieu. Et c'est ça dont a besoin le peuple de Dieu. Par la grâce de Dieu, Israël va expérimenter le nom de Dieu. En étant libéré de l'esclavage de Pharaon. Et on peut dire que par la grâce de Dieu, nous pouvons expérimenter le nom de Jésus-Christ en vivant la libération de l'esclavage du péché, pour être réconciliés avec notre Père Céleste. On vivait errant, esclave du péché de ce monde, mais en Christ, ce que Dieu veut que nous vivions, c'est la libération pour être réconcilié avec notre Père. Alors je vous laisse 3 questions et 1 encouragement à bien garder en tête pour résumer un petit peu ce message. Première question, est-ce que je comprends le nom de Jésus comme une formule magique ou plutôt comme étant le moyen par lequel le grand Je suis, l'Éternel, s'est révélé et fait connaître à nous? Première question. Deuxième question, dans quel domaine de ma vie j'ai tendance à regarder mon propre nom plutôt que celui de Jésus? Troisième question, est-ce que c'est dur à vivre pour moi les implications du nom de Jésus-Christ, l'obéissance et la foi? Mais le plus important, selon moi, l'encouragement. Donc si vous devez garder une chose, c'est cet encouragement. Expérimenter le nom de Jésus, c'est vivre la libération de l'esclavage du péché. Et je vais prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es un Dieu qui se révèle, qui a voulu se faire connaître à nous. Tu es un Dieu de grâce qui nous entoure, qui nous rassure malgré le fait qu'on puisse regarder à un autre nom. Toi, tu es fidèle, tu t'es engagé. Et Seigneur, merci de t'être fait connaître, de t'être révélé à nous en Jésus-Christ. Merci parce que tu voulais qu'on expérimente ton nom en vivant la libération de l'esclavage du péché. Et on ne peut être que reconnaissant, te dire merci d'être le Dieu qui ne nous a pas laissés errants, mais qui nous a fait vivre la libération. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.